journal. Demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Il est 19h, passé de 6 minutes, et c'est l'heure du Canu Info. Eh bien, ce soir, on va parler de quoi ? On va parler... comme c'est pas écrit, chacun va dire de quoi il va parler, comme ce sera plus simple.
Eh bien, on va parler de plein de trucs, on va faire plein d'espèces de brèves, avec par exemple une brève sur Marlène Chapaas.
Ouais, il y aura des petites infos sur le Kurdistan.
Il y aura une brève sur Donald Trump.
On va parler de mort en Méditerranée.
On va aussi parler de loi anti-trans.
On va parler d'expulsion de squat à Lyon.
Et une chronique de Laurent Delabouze.
Et on va parler aussi de bande d'orques et de la droite au Sénat qui essaye de faire la concurrence au fascisme.
Alors, il faut quand même mieux parler dans ton micro, sinon
on n'entend pas. Oui, pardon, de la concurrence au fascisme du Front National. Des brèves, parce que comme j'ai pas de casque, je pouvais pas écouter ce que j'avais mis. Excusez-moi. Alors, en bref, j'ai un casque, il faut juste que je. Marlène Chapaas a fini par être interviewée par le Sénat concernant le fonds Marianne. Pour vous résumer la teneur des échanges, elle a décidé de se faire passer pour une incompétente plutôt qu'une corrompue. L'avenir nous dira si c'est une stratégie gagnante.
Bakour, Kurdistan de Turquie. Le 7 juin, à Akari, un blindé de l'armée turque a percuté et tué un enfant de 5 ans. Le sergent qui conduisait a été relâché, la justice ayant conclu que c'était l'enfant qui était fautif dans l'accident.
Donald Trump a été inculpé cette nuit. Il est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires et des informations sur des armes nucléaires. Ça a été retrouvé dans les toilettes de sa résidence luxueuse de Floride à Mar-a-Lago.
Rojava, Kurdistan de Syrie. Comme prévu, ce n'est pas seulement en Turquie que la réélection d'Erdogan fait des ravages. Depuis lundi, des drones de l'armée turque ont mené plusieurs attaques sanglantes contre les zones sous contrôle des forces arabo-kurdes au Rojava. La Turquie intensifie les attaques violentes ces derniers jours à Manbij et à Kamishlo, avec des bombardements. Et à Manbij, les drones ont tué 6 membres des forces de défense locales, dont 4 ont été abattus alors qu'ils tentaient d'évacuer des enfants, eux-mêmes touchés par des tirs.
Est-ce qu'en attendant que le générique se lance, quelqu'un a prévu de faire une mini-brève quand même sur la mort de Berlusconi ? On imagine que ça a déjà été fait dans la semaine, mais... Ouais, c'est bon, ça, on va en parler, très bien. Parce qu'il fallait quand même pas que ce soit un oubli, quoi.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Radio Canu.
Canu Info.
C'est le white des jingles aujourd'hui. Allez hop là.
Et c'est reparti, je sais plus si on en avait parlé. Ah non, je vous avais pas dit ça. Ouais, si, je fais celle-là. Je sais plus si on vous en avait parlé, mais depuis environ 2020, des bandes d'orques, alors comme dans Sauve et Willy, pas comme dans Le Seigneur des Anneaux, se sont mises à attaquer des bateaux sur les conseils d'un d'entre eux, nommé Gladys. Enfin, en tout cas, c'est les scientifiques qui la nomment Gladys. On en serait quand même à 500 attaques d'orques depuis 2020. Et cette semaine, c'est un bateau de pêche qui a vu son gouvernail être arraché par une de ces créatures. La dite Gladys enseignerait les techniques d'attaque de bateau à ses congénères orques en vue de mener une guérilla maritime.
Rojilat, Kurdistan d'Iran, la branche armée du Pijak, partie pour une vie libre au Kurdistan, a revendiqué la responsabilité d'une opération contre les Pasdaran, gardiens de la révolution iranienne. En effet, hier, d'intenses combats ont opposé les forces armées iraniennes et les forces de libération kurdes. Cette attaque, menée par le Pijak, a été décidée après que les Pasdaran aient bombardé des localités montagneuses kurdes où sont censées se trouver les forces de libération kurdes. Pour l'anecdote, on peut voir dans le documentaire « Les femmes du mont Ararat » tourné il y a à peu près 15 ans, des femmes du Pijak déclarer un cessez-le-feu unilatéral. Elles déclaraient un cessez-le-feu ayant fait le bilan des pertes, lourd pour l'armée iranienne et inexistante pour les forces féminines de libération kurde. Elles disaient « Nous ne pouvons plus nous battre car l'ennemi n'est pas à la hauteur ».
Et on va continuer avec les ennemis pas franchement à la hauteur. Et donc cette fois-là, c'est la course États-Unis-Russie, qui donc c'est pas la guerre froide, c'est qui continue une course en avant réactionnaire avec la Douma qui a aujourd'hui voté une loi interdisant le changement de sexe, en Russie. Alors il s'agissait de rattraper les États-Unis où les États de droite se déchirent pour trouver la pire horreur à faire, comme en mars, le Kentucky. Où a priori la pire loi de la série avait été adoptée, elle interdit, je cite, aux mineurs transgenres de bénéficier de soins de santé de réassignation de sexe, oblige les médecins à interrompre les transitions de genre des mineurs transgenres à leur charge et empêche les établissements scolaires de discuter des questions d'identité de genre ou d'orientation sexuelle avec les élèves, quel que soit leur âge. Depuis l'officialisation de cette loi au Kentucky, d'autres projets de loi similaires sont introduits et discutés partout ailleurs dans le pays.
J'ai pas de générique, moi, par exemple.
Ah bah non, mais donc il te reste pas de bref, parce que moi, il m'en reste une encore. C'était ça, ma question. Ok, et bah du coup, je fais ma dernière. La droite, toujours, mais cette fois en France. La droite, donc les Républicains, qui ont la majorité au Sénat, essayent de montrer qu'ils sont plus fascistes que le Front National. Ainsi, une proposition de loi a été votée qui propose de généraliser la reconnaissance faciale à tous les dispositifs de vidéosurveillance publique du pays. Alors, heureusement, le texte a relativement peu de chances de passer à l'Assemblée nationale, mais on voit que la droite française est dans la course à l'échalote sur le fascisme.
Oui, c'est pas nouveau.
Et c'est pas nouveau.
Attention, vous êtes prêts ?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent Delabouze.
Bonsoir. On commence par la bonne nouvelle de la semaine. Berlusconi est mort. Et avec lui, le racisme, le sexisme et la Startup Nation. Quoi ? Macron, champion de la Startup Nation, est mort ? Darmanin, sexisme et racisme deux en un, est mort aussi ? Non, je déconne. On peut tuer Berlusconi, mais on peut pas tuer la connerie. La preuve, t'es toujours en forme. Pardon, j'ai pas pu me retenir, mais ça nique ma transition.
Comme il n'y a pas de vidéo, vous vous rendez pas compte qu'à chaque fois, il vise la même personne quand même.
Oui, et c'est toi, du coup. Oui.
Non, je voulais dire, la preuve, Sarkozy est toujours en forme. On pourrait même dire qu'il va peut-être reprendre la tête du championnat du plus grand nombre de procès contre lui, malgré la ténacité de ses concurrents et néanmoins amis, Claude Guéant et Patrick Balkany. En effet, dans le cadre du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, le domicile de Nicolas Sarkozy a été hier, une nouvelle fois, perquisitionné. Il a tellement de fois été perquisitionné qu'il est obligé de demander à trois flics de se pousser à chaque fois qu'il va à la salle de bain. Sa maison, c'est plus une maison, c'est une succursale de la gendarmerie. Hier matin, la perquisition n'a d'ailleurs sûrement pas trop plombé la douce ambiance qui règne dans le foyer Carla Bruni-Sarkozy. Police ! Ouvrez ! Bonjour, c'est la brigade. Putain, Roger, mais c'est toi ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah ouais, chef, je me rappelle, on l'a oublié de le ramener la dernière fois qu'on est venu. Bon, alors pourquoi cette perquisition maintenant ? Pour une affaire qui date de 2007. Eh bien, depuis 2012, Ziad Takeddine, l'homme d'affaires et intermédiaire libyen, ancien ami de Sarkozy, affirme que ce dernier a reçu de l'argent de Kadhafi pour sa campagne. Il faut savoir que, niveau biographie, Ziad Takeddine a quasiment la même que Pablo Escobar. Il suffit de remplacer Colombie par Libye et on a tout bon. Pendant des années, donc, Takeddine accuse Sarkozy d'avoir bénéficié de l'argent de Kadhafi. Et puis d'un coup, en 2020, il dit que « Non, je me suis trompé, j'ai dû confondre. D'ailleurs, c'est qui Sarkozy ? Un grand mec, tout calme, avec un petit nez ? Ah, ok, ah oui, c'est lui. Ah, bah je vois. Ah, en fait, il est aussi innocent qu'un enfant de cœur à la sortie de la messe. » Et puis, deux mois après, il dit « Si en fait c'est lui, ce petit être malfaisant et nerveux, le karcher humain à l'œil vicieux, c'est à lui que j'ai transmis les valises d'argent de Kadhafi. » Et puis, très peu de temps après, il redit « Moi, accuser Sarkozy ? Jamais de la vie. Cet homme au-dessus de tout soupçon est un ange descendu sur terre pour sauver la France, l'humanité et les misérables opprimés par l'ISF. » Ces incessants et brusques revirements dans les déclarations de Ziad Takeddine ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs de la brigade financière qui font partie de l'élite des plus fins limiers français. Et là, ils se sont dit, il y a dû y avoir corruption de témoins, qui finalement se dit qu'il n'a pas assez palpé et redemande plus. D'après ce qui a fuité de l'enquête, et tout est vrai, un intermédiaire mort depuis aurait versé 608 000 euros à Ziad Takeddine et ses amis. Voilà. Il faut préciser aussi que les enquêteurs ont entendu la femme de l'ex-président. On peut imaginer qu'elle aurait déclaré « Il y a quelqu'un qui m'a dit... » Que vous avez dit quoi, madame Carla Bruni ?
« Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Aurait-ce possible alors ?»
Bon. Tu l'as fait version rail.
Excusez-moi, on l'entend peu sur les bandes continues de Radio Canu. Bon, quoi qu'on en dise, des fois, enquêteur, c'est pas un métier facile. D'ailleurs, en parlant de ce qui fait saigner les oreilles, on reparlera bientôt, vous inquiétez pas, de Sarkozy avec l'affaire des écoutes. Et il y aura aussi, en automne, sûrement, l'affaire Big Malion. T'inquiète Nico, il y a Balkany et Claude Guéant qui ont chauffé la couchette. En parlant enquête, depuis qu'on en a parlé à ce même Canu Info, les choses bougent dans l'affaire du fonds Marianne. Marlène Schiappa a été entendue par la commission d'enquête du Sénat ce matin. Quant à son ami, Mohamed Sifaoui, à qui elle avait donné tout l'argent de l'État, il aurait dû être entendu hier, mais il ne s'est pas présenté, puisqu'il était chez lui, en train de recevoir la brigade financière venue perquisitionner. Oh Roger, c'est toi ? Ah non, Roger, il n'est pas là, il est encore chez Sarkozy. Pendant ce temps, à la campagne, les deux écologistes, Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, étaient partis faire une balade à pied dans l'Aude pour, entre autres, protester contre l'implantation d'un terrain de golf. Alors qu'elles marchaient tranquillement sur une petite route de campagne, avec leur sac à dos, les deux élus se sont fait barrer la route par une petite bande de viticulteurs du coin. Et là, elles sont tombées sur les vrais viticulteurs du terroir local. Des vrais agriculteurs, bien français, bien de la FNSEA, vive les pesticides et l'exploitation, des viticulteurs pur jus qui consomment avec bonne volonté leur propre production. Les agriculteurs les ont invectivés, ont râlé sur le fait qu'elles faisaient de l'agribashing à la télé, et le ton est un petit peu monté. Et là, un des viticulteurs a lancé à Sandrine Rousseau cette formule tout à fait à propos. « Va faire la soupe salope, grosse salope. »« Va faire la soupe salope. » Eh ben, je vais te le dire. Toi aussi, t'es une salope. Parce que je t'ai déjà vu en faire de la soupe. Et moi, je suis une vraie grosse salope. Une grosse salope bien vicieuse. Parce que moi, j'en fais de la soupe. En plus, je prends du plaisir à la faire. Je prends même du plaisir à la manger. Mais heureusement qu'on a un gouvernement qui défend les pauvres agriculteurs de la FNSEA. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement justement, est monté au créneau à l'Assemblée nationale pour les défendre, ces agriculteurs. et pour taper sur les soulèvements de la Terre et défendre l'écologie. Et heureusement que c'est pas le ministre de l'écologie lui-même qui s'en est chargé. Parce que là, il y a un peu plus de niveau. Voilà donc ce qu'on l'a entendu déclarer pour défendre l'écologie de gouvernement et attaquer les soulèvements de la Terre. Quand on aime la Terre, on organise des forums mondiaux pour venir en aide aux forêts. Quand on aime la Terre, on fait le choix du nucléaire, qui est une énergie propre. Cette association ne fait rien de cela. Quand on aime la Terre, on n'attaque pas des agriculteurs, on ne démonte pas des serres et on n'arrache pas des salades. C'est ainsi qu'Olivier Véran pose la question de la légitimité de la violence. Et là, attention, c'est la petite minute culturelle, alors ne vous enfuyez pas. Et puisque l'Italie ne nous a pas donné que Berlusconi, je vous propose de voir ce qu'en disait Malatesta sur la légitimité de la violence. La guerre, la violence ne produisent pas la civilisation, mais la barbarie, l'esclavage, la haine, la misère. Elles oppriment le vaincu, corrompent et abrutissent le vainqueur. Il n'y a de guerre sainte que celle faite pour se libérer de l'oppression. Il n'y a de violence juste que celle qui repousse la violence. Mais attention, je ne suis pas un pacifiste. Je pense que les opprimés sont toujours en état de légitime défense et qu'ils ont toujours le droit d'attaquer leurs oppresseurs. J'admets donc qu'il y a des guerres nécessaires, des guerres sacrées. Ce sont les guerres libératrices, comme le sont généralement les guerres civiles, c'est-à-dire les révolutions.
Bon, c'est de la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite. Mon Raymond et le canon, c'est de la bombe atomique. Quand il déboule, nom de nom, l'air en devient électrique. L'air en devient électrique. Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Mon Raymond est un pirate, ouais. Il prend tout à l'abordage comme s'il y jouait sa vie, comme s'il y jouait sa peau, comme si le monde était beau. Il dit que la vie est un gage, qu'il faut la vivre debout, ou bien la vivre à genoux. Vraiment rien ne le décourage, non. Vraiment rien ne le décourage, non.
Radio Canu. C'était un morceau de circonstance avec mon Raymond de Carla Bruni, qu'on vous passe pas en entier parce que on en a
c'est
déjà
vraiment insupportable.
Voilà.
Ça a duré déjà beaucoup trop duré.
C'était déjà trop long.
Écoutez. À tout moment, il peut venir te prendre tous les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info contre la machine.
Ce matin, un bateau transportant plusieurs personnes a fait naufrage au large des côtes grecques. 104 personnes ont pu être secourues et 78 personnes se sont noyées dans le naufrage. D'après les médias locaux, le bateau pourrait transporter ou aurait pu transporter jusqu'à 600 personnes, ce qui fait craindre un bilan beaucoup plus lourd. Il s'agit déjà du naufrage le plus meurtrier cette année en Grèce. On ne connaît pas grand-chose des circonstances. Vendredi 9 juin, le bateau a quitté Tobrouk à l'est de la Libye pour prendre la route vers l'Italie. Le bateau a ensuite fait naufrage ce mercredi au large de Pylos en Grèce. La Grèce, c'est une des routes privilégiées pour arriver en Europe et durant cette année, le nombre de départs à l'est de la Libye a augmenté, augmentant le risque du trajet, car ce trajet est beaucoup plus long qu'à l'ouest de la Libye, point de départ encore privilégié. Quelles que soient les conditions de ce naufrage, qu'il ait qu'il ait subi ou non un pushback comme le font régulièrement les gardes-côtes grecs, que l'embarcation ait subi des intimidations, menaces et manœuvres dangereuses de la part des mêmes gardes-côtes grecs qui le font aussi régulièrement, que des autorités type Frontex ou autres aient repéré le navire et ignoré les appels de détresse, ou bien que le navire ait coulé parce qu'il était surchargé et en mauvais état. S'ils ont choisi de prendre plus de risques en partant à l'est de la Libye, c'était pour éviter de se faire pincer par les gardes-côtes libyens. S'ils ont bien choisi, comme le prétendent les autorités portuaires grecques, donc c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mardi, s'ils ont refusé toute aide, c'est qu'ils n'ont pas souhaité faire face aux agissements des gardes-côtes grecs qui brutalisent les embarcations. Si 600 galériens et galériennes entassés dans un navire finissent à l'eau, en prenant des risques que personne n'oserait prendre s'il a la moindre petite raison de ne pas partir, il est alors évident que les responsables de chaque choix stratégique les obligeant à se rapprocher un peu plus de la mort sont les politiques migratoires européennes qui ont choisi d'assumer les morts à nos frontières. En 2022, 2406 migrants et migrantes sont morts en Méditerranée. Ce chiffre risque d'être plus important en 2023, qui enregistre depuis janvier déjà 1166 noyades, faisant craindre un record depuis 2017. Depuis 2014, l'OIM, l'Observatoire international des migrations, a recensé plus de 20 000 morts, chiffre forcément sous-estimé car un certain nombre ne sont pas repérés. Et on va faire un tour dans notre contrée. À Lyon, sale temps pour les migrants alors, et les migrantes, alors que les nazis décident de mettre la pression aux occupants et occupantes sous tente d'un parc. Dans le troisième, opposant de minables affiches sur les grilles du parc avec comme sous-titre « Chassons les migrants », les autorités décident d'expulser le squat « La maison sans souci » où 50 personnes vivent tranquillement depuis plus de 2 ans. Maison qui appartient à la mairie de Lyon. Malgré les annonces affirmant qu'il n'y aurait pas d'expulsion, D'autres faits ont mis la puce à l'oreille aux habitants et habitantes, car par exemple le vendredi 2 juin, la police est venue manu militari faire un recensement dans le squat. Quand je dis manu militari, c'est-à-dire qu'ils ont défoncé la porte pour compter combien de personnes étaient là et qui étaient là. Et en gros, à chaque fois que la police fait ça, c'est quand même un peu le signe qu'ils vont procéder à une expulsion. Ce qui a conduit les personnes de tenter de renouer un peu le dialogue avec la mairie pour un peu savoir ce qui se passait, dialogue qui restait sans réponse, et c'est lundi au petit matin qu'une trentaine de policiers sont venus remettre à la rue les habitants et habitantes de cette maison. Et comme à leur habitude, les flics ont également empêché, enfin c'est en gros à la fin de l'expulsion, il y a eu plusieurs flics qui sont restés devant. Les personnes ont tenté de récupérer leurs affaires, et comme un peu ils le font à chaque fois, ils ont un peu compliqué ce truc là pour limiter le nombre d'allers-retours. En gros, ils ont dit aux gens, vous pouvez prendre ce que vous pouvez prendre dans vos deux bras. Voilà pour l'ambiance à Lyon. Il y a aussi également le squat.
Le squat du racure,
qui a été. Enfin, alors il a pas eu. Le communiqué parle d'une fermeture. Alors on imagine que les gens sont partis d'eux-mêmes. Mais en tout cas, ça a quand même. Ils sont partis d'eux-mêmes, mais quand même sous la pression d'une possible expulsion. Ça a quand même fait que 60 personnes se sont retrouvées sans solution d'hébergement. Et il y a eu 3 familles qui sont en hôtel suite à l'insistance de soutien. Mais on sait que l'hôtel est précaire et on ne sait pas combien de temps tout ça va durer.
Je précise que du coup, une manifestation est prévue demain à 11h30 qui va partir de devant la métropole, 20 rue du Lac dans le 3e, pour aller jusqu'à la préfecture et demander l'hébergement des 200 mineurs isolés présents sur Lyon et notamment des gens qui campent dans ce parc du 3e arrondissement qui a subi des attaques dégueulasses de l'extrême droite.
Et petite pression, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mes fiches, mais les 4 personnes qui ont été embarquées par la PAF à l'expulsion du sans-souci ont été malgré tout libérées quelques heures plus tard. Et bien, c'est la fin de notre Canu Info.
C'était vachement efficace.
Voilà, on avait un petit format France Info voilà, pour ce mercredi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt pour de nouvelles aventures.
Bonne semaine à vous.
Radio Canu.
C'est le Canu Info du mercredi.
retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Belle des radios.